Les soins à donner à la santé. On a peine à commencer à réfléchir à la physiologie des criminels. Et cependant, on se trouve déjà devant l'impérieuse certitude qu'entre les criminels et les aliénés, il n'y a pas de différence essentielle. À condition que l'on ait la certitude que l'habituelle façon de penser en morale soit la façon de penser de la santé morale. Mais nulle croyance n'est aujourd'hui si bien admise que celle-ci. Il ne faudrait donc pas craindre d'en tirer les conséquences et de traiter le criminel comme un aliéné. Surtout, de ne pas le traiter avec charité hautaine, mais avec une sagesse de médecin et une bonne volonté de médecin. Il a besoin de changements d'air et de société, d'un éloignement momentané et peut-être de solitude et d'occupations nouvelles. Parfait. Peut-être trouve-t-il lui-même que c'est son avantage de vivre pendant un certain temps sous surveillance, pour trouver ainsi une protection contre lui-même et son fâcheux instinct tyrannique. Parfait. Il faut lui présenter clairement la possibilité et les moyens de guérir, d'extirper, de transformer, de sublimer cet instinct, et aussi, au pis aller, l'invraisemblance de celui-ci. Il faut offrir au criminel incurable qui se fait horreur à lui-même l'occasion du suicide. Ceci réservé comme moyen suprême d'allègement, il ne faut rien négliger pour rendre avant tout au criminel le bon courage et la liberté d'esprit. Il faut effacer de son âme tous les remords, comme si c'était là une affaire de propreté, et lui indiquer comment il peut compenser le tort qu'il a peut-être fait à quelqu'un par un bienfait exercé auprès de quelqu'un d'autre, bienfait qui surpassera peut-être le tort. Tout cela avec d'extrêmes ménagements, et surtout d'une façon anonyme ou sur des noms nouveaux, avec de fréquents changements du lieu de résidence, afin que l'intégrité de la réputation et la vie future du criminel y courent aussi peu de danger que possible. Il est vrai qu'aujourd'hui encore, celui à qui un dommage a été causé, abstraction faite de la façon dont son dommage pourrait être réparé, veut avoir sa vengeance et s'adresse aux tribunaux pour l'obtenir. C'est pourquoi, provisoirement, notre horrible pénalité subsiste encore, avec sa balance d'épicier et sa volonté de compenser la faute par la peine. Mais n'y aurait-il pas moyen d'aller au-delà de tout cela? Combien serait allégé le sentiment général de la vie si, avec la croyance à la faute, on pouvait se débarrasser aussi du vieil instinct de vengeance, et si l'on considérait que c'est une subtile sagesse des hommes heureux de bénir ses ennemis, comme fait le christianisme, et de faire du bien à ceux qui nous ont offensés? Éloignons du monde l'idée du péché, et ne manquons pas d'envoyer à sa suite l'idée de punition. Que ces démons en exil aillent vivre dorénavant ailleurs que parmi les hommes, s'ils tiennent absolument à vivre et à ne pas mourir dans leur propre dégoût. Mais que l'on considère en attendant que le dommage causé à la société et à l'individu par le criminel est de la même espèce que celui que leur causent les malades. Les malades répandent les soucis, la mauvaise humeur, ils ne produisent rien et dévorent le revenu des autres. Ils ont besoin de gardiens, de médecins, d'entretiens, et ils vivent du temps et des forces des hommes bien portants. Néanmoins, on considérerait vraiment comme inhumain celui qui voudrait se venger de tout cela sur le malade. Il est vrai qu'autrefois on agissait ainsi. Dans les conditions grossières de la civilisation, et maintenant encore chez certains peuples sauvages, le malade est considéré comme criminel, comme danger pour la communauté, et comme siège d'un être démoniaque quelconque qui, par la suite de sa faute, s'est incarné en lui. C'est alors que l'on dit « tout malade est un coupable ». Et nous, ne serions-nous pas encore mûrs pour la conception contraire? N'aurions-nous pas encore le droit de dire « tout coupable est un malade » Non, l'heure n'est pas encore venue pour cela. Ce sont les médecins qui manquent encore avant tout. Les médecins, pour qui ce que nous avons appelé jusqu'ici morale pratique, devra se transformer en un chapitre de l'art de guérir, de la science de guérir. L'intérêt avide que devraient provoquer ces choses manque encore généralement, un intérêt qui ne paraîtra peut-être pas un jour sans ressemblance avec les agitations troublées que provoquait autrefois la religion. Les églises ne sont pas encore entre les mains de ceux qui soignent les malades. L'étude du corps et du régime sanitaire n'appartient pas encore à l'enseignement obligatoire de toutes les écoles supérieures et inférieures. Il n'y a pas encore d'association silencieuse de ceux qui se sont engagés à renoncer à l'aide des tribunaux, à punir ceux qui leur ont fait du mal et à se venger sur eux. Nul penseur n'a encore eu le courage de mesurer la santé d'une société et des individus qui la composent d'après le nombre des parasites qu'elle peut supporter. Nul homme d'État ne s'est encore trouvé qui menace sa charrue dans l'esprit de ses discours généreux et doux. Si tu veux cultiver la terre, cultive-la avec la charrue. Alors jouiront de toi l'oiseau et le loup qui vont derrière ta charrue. Toutes les créatures jouiront de toi. contre le mauvais régime. Fi des repas que font maintenant les hommes, tant dans les restaurants que dans tous les endroits où vit la classe aisée de la société. Lors même que se réunissent des savants considérés, ce sont des coutumes semblables qui chargent leurs tables, tout comme celles des banquiers, selon le principe de la trop grande abondance et de la multiplicité. D'où il suit que les mets sont préparés en vue de l'effet et non en vue des conséquences, et qu'il faut que des boissons excitantes aident à chasser la lourdeur de l'estomac et du cerveau. Fi de la dissolution et de la sensibilité exagérée que tout cela doit amener à la suite. Fi des rêves qui viendront à ces gens-là. Fi des arts et des livres qui seront le dessert de pareils repas. Et qu'ils agissent comme ils voudront. Leurs actes seront régis par le poivre et par la contradiction ou par la lassitude universelle. Les classes riches en Angleterre ont besoin de leur christianisme pour pouvoir supporter leur mauvaise digestion et leurs maux de tête. En fin de compte, pour dire non seulement tout ce que cela a de dégoûtant, mais encore ce qu'il y a là de joyeux, ces hommes ne sont nullement des viveurs. Notre siècle et sa façon d'activité sont plus puissants sur les extrémités que sur le ventre. Que veulent donc alors ces repas? Ils représentent. Quoi donc, mon Dieu? Le rang? Non, l'argent. On n'a plus de rang. On est individu. Mais l'argent, c'est la puissance, la gloire, la prééminence, la dignité, l'influence. L'argent crée maintenant pour un homme le grand ou le petit préjugé, selon qu'il en a. Personne ne voudrait le mettre sous un boisseau. Personne ne voudrait l'étaler sur la table. Il faut donc que l'argent ait un représentant que l'on puisse mettre sur la table. Voyez nos repas. Danaé et le dieu en or. D'où vient cette excessive impatience qui fait maintenant de l'homme un criminel dans des situations qui expliqueraient plutôt le penchant contraire? Car si celui-ci pèse à faux poids, si cet autre allume sa maison après l'avoir assurée au-dessus de sa valeur, si cet autre encore continue à frapper de la fausse monnaie, si les trois quarts de la haute société s'adonnent à une fraude permise et se chargent de la conscience d'opérations de bourse et de spéculation, qu'est-ce qui les pousse? Ce n'est pas la misère véritable. Leur existence n'est pas tout à fait précaire. Peut-être même mangent-ils et boivent-ils sans souci. Mais c'est une terrible impatience de voir que l'argent s'amasse si lentement, et une joie et un amour tout aussi terribles pour l'argent amassé qui les pousse nuit et jour. Dans cette impatience et dans cet amour, cependant, reparaît ce fanatisme du désir de puissance qui fut enflammé autrefois par la croyance d'être en possession de la vérité. Ce fanatisme qui portait de si beaux noms que l'on pouvait se hasarder à être inhumain avec une bonne conscience, à brûler des juifs, des hérétiques et des bons livres, et à exterminer les civilisations supérieures tout entières, comme celles du Pérou et du Mexique. Les moyens dont se sert le désir de puissance se sont transformés. Mais le même volcan bouillonne toujours. La patience et l'amour démesuré veulent avoir leurs victimes, et ce que l'on faisait autrefois pour la volonté de Dieu, on le fait maintenant pour la volonté de l'argent, c'est-à-dire à cause de ce qui donne maintenant le sentiment de puissance le plus élevé et la meilleure conscience.